Série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 58, le réseau FIFA, Fédération internationale de football. Hashtag FIFA pédo, hashtag FIBA pédo, FIBA, Fédération internationale de basket. Réseau pédocriminel, système de protection et de promotion pro-pédo par les fédérations sportives nationales et internationales. Romain Molina est un journaliste indépendant, passionné de football et de sport en général, mais qui s'intéresse aussi à d'autres sujets, par exemple son dernier livre sur les coulisses et les profiteurs de guerre de la guerre au Yémen. Tel un homme droit et digne, quand Romain Molina a découvert ce sujet des viols de mineurs et de chantage sexuel notamment dans le football international, joueurs, joueuses et arbitres, il n'a pas détourné le regard et a fait exploser de nombreux scandales dans de nombreux pays. Les témoignages affluent et la liste des pays touchés est effrayante. Le système de couverture semble quasi systématique et ancré depuis des décennies. Cet article est principalement basé sur ses travaux, qu'il a péniblement réussi à publier dans des journaux, évidemment pas en France, à l'international, le New York Times aux États-Unis, le Guardian en Royaume-Uni, la BBC également au Royaume-Uni, Sport News Africa, qui est un site plutôt panafricain, ou encore Josimar en Norvège. Donc, un grand merci à ce compagnon de lutte pour les enfants, et comme il se plaît à le dire lui-même, Keep the faith, gardez la foi. Je vous mets donc son site internet, ou si vous avez des témoignages à fournir, vous pouvez le contacter de manière sécurisée, son Twitter, son YouTube, son Facebook. Une bonne porte d'entrée dans ce dossier tentaculaire, c'est un live qu'il a réalisé pendant 3 heures avec différents journalistes avec qui il a collaboré pour faire les articles, mais également avec des témoins, également avec des victimes, également avec une avocate anglaise qui défend les jeunes qui sont aux prises avec ces problèmes. Enfin voilà, c'est très intéressant et puis c'est très vivant et c'est vraiment, voilà. Wanted Pedo, d'ailleurs, il retrouve totalement son expérience dans le domaine vis-à-vis des mécanismes d'abus décrits, vis-à-vis des rapports avec la justice et avec les institutions, et du difficile accompagnement des familles de victimes, que ce soit au niveau du soutien moral, de la mise en forme des plaintes, de l'omerta, de l'isolement des familles, de l'aliénation des enfants, des menaces, des suicides éventuellement, des calomnies qui sont données par les prédateurs sur les enfants, ou ceux qui les protègent les prédateurs. Également le fait qu'il faut absolument éviter les fuites d'informations qui pourraient mettre en danger les personnes qui parlent. C'est déjà suffisamment courageux comme ça, il faut surtout pas que l'aide qu'on veut leur apporter les mette en danger. Surtout quand au départ, donc, des personnes comme Romain n'ont pas du tout été formées pour ça, en fait. Alors, on tient à rappeler qu'ici, on ne parle pas des innombrables victimes dans les clubs amateurs, où le système judiciaire et l'omerta suffisent à broyer les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de petits clubs à droite à gauche. Tout ce dont on va parler, c'est vraiment, ça peut être en lien avec des clubs, mais c'est toujours, ça concerne directement la Fédération nationale d'un sport et éventuellement la Fédération internationale dans ses rapports avec la Fédération nationale. Mais on parle vraiment du haut du panier. On parle des sélections nationales, on parle de l'encadrement. Voilà, typiquement en France, c'est Clairefontaine pour le foot. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites une recherche par exemple sur la revue de presse du site pour vous en convaincre. Je vous ai mis quelques liens en tapant les mots-clés, par exemple sport ou football ou basket. Vous verrez qu'il y en a énormément, énormément dans le sport. Et d'ailleurs, le contrôle systématique des casiers judiciaires n'est toujours pas mis en place au niveau national pour tous les sports, où nous on le réclame dans nos revendications, pour toute activité, qu'elle soit rémunérée ou non, où un majeur est au contact d'un mineur, voilà, qui n'est pas son enfant. Il est évident que ça devrait être généralisé, on en est loin malgré les effets d'annonce médiatiques qu'on a eus récemment. En 2022, on passera également sur les multiples scandales financiers ou de corruption des dernières années à la FIFA, je vous ai mis un lien, ou encore de ceux à la Fédé française de football, donc harcèlement sexuel des cadres par les cadres sur des employés, des guerres de clans, des productions de faux, des enquêtes enterrées car ils sont jugés partis, des magouilles financières, du racisme, du machisme, des accointances politiques, et on rajoutera les petites pour faire des petits clins d'œil, les péniches en Russie, les villas aux Pays-Bas. Et les articles que la Fédé dicte directement aux journalistes des médias, comme ça c'est vraiment super. Mais voilà, ça c'est le bain, on va dire, dans lequel, de corruption, on peut dire ça, dans lequel baignent toutes ces institutions. Mais on va donc pas parler de ça, on va uniquement, je vous ai mis des liens, mais on va uniquement parler des abus sexuels sur mineurs et un peu aussi sur majeurs, parce qu'il faut bien se rendre compte que si des fois les choses ne sortent que sur les majeurs. Néanmoins, ça donne quand même l'ambiance dans ces fédés voilà, de ce qu'on se permet de. Souvent, c'est du chantage sexuel, de ce qu'on se permet de faire au nom du pouvoir que donne une place dans une fédé par rapport à des sportifs dont c'est toute leur vie. Donc, allons-y, on va faire pays par pays. C'est uniquement des pays qui ont fait l'objet de dénonciations par Romain Molina et d'autres, qui ont été publiés et qui ont souvent donné lieu à des suites judiciaires. Et il y en a plein d'autres. Voilà. Et on essaiera d'actualiser au fur et à mesure. Alors on commence par la France. C'est l'histoire de l'ancien responsable pédagogique de l'Institut national du football de Clairefontaine, l'INF, qui s'appelait David Sanjosé. Il a été viré en mai 2012 suite à des comportements dépassant les barrières avec un mineur, texto à caractère amoureux notamment, et ayant continué tranquillement à travailler dans le football avec des enfants depuis, recevant même sa licence UEFA A par équivalence en 2017, signée par le président de la Fédé, Noël Le Graët. Donc effectivement, quand je dis ayant continué tranquillement, c'est-à-dire qu'en fait, comme dans l'éducation nationale, comme dans l'Église, comme souvent, comme les institutions qui sont face à ça, pour ne pas salir la réputation de l'institution, on va tout simplement faire semblant de sanctionner la personne et on va la muter. Et donc on va même pas vraiment lui enlever ses diplômes ou enlever la capacité de travailler au contact des enfants. On va juste lui dire, écoute, t'es gentil, tu t'es fait griller, même si t'es pas de condamnation là tout de suite, tu t'en vas, on te laisse continuer, on veut plus entendre parler de toi, et puis point barre, c'est fini quoi. Voilà. Donc, tout d'abord, ce sont les parents d'un joueur mineur qui trouvent sur le téléphone de leur enfant des messages d'amour entre guillemets du coach. Ils donnent une lettre à Clairefontaine pour que cela s'arrête et la Fédération nationale n'est pas mise au courant. Quelques jours plus tard, deux autres enfants parlent aux encadrants du fait qu'il y avait en fait plein de messages envers de nombreux enfants, essayant même parfois de devenir, donc le David Sanjosé, essayait parfois donc de se faire ami-ami avec les enfants et avec la famille pour devenir le parrain de certains enfants, imaginez. Voire forcer les situations pour suivre les enfants sous les douches, physiquement. Cela remonte donc au directeur de l'INF, M. Prêcheur, qui sera la seule et unique personne à appeler les parents pour les encourager à porter plainte, puis suite à ces démarches, silence radio de la fédération. David Sanjosé est mis à pied, puis le dossier est transmis comme à chaque fois, d'autres cas ont été commis à Clairefontaine même, aux ressources humaines. De l'avis unanime de toutes les personnes interrogées, on a enterré le dossier. La Fédé d'y avoir fait une enquête alors que personne n'a été interrogé. Puis on a fait un dossier sur attouchement alors qu'il n'y avait a priori pas eu de passage à l'acte, d'où une évidente relaxe. Hein. Effectivement, quand on attaque sur quelque chose que les enfants ne disent pas, ça risque pas de faire lieu à une condamnation. Donc comme ça, il a évité d'être condamné pour corruption de mineurs ou autre chose. C'est intéressant. On parle aussi d'une autre affaire, l'affaire Angélique Roujas, 2004-2005, coach des féminines à l'INF et qui a eu des relations avec des joueuses dont plusieurs mineures et a été licenciée, mais elle a pu continuer sans problème à exercer au contact des mineurs. Donc là, on parle bien d'une lesbienne, donc du coup, enfin de pédophilie entre filles, entre guillemets. Une autre mineure encore surprend à ce moment-là son entraîneuse, donc de Clairefontaine, donc Angélique Roujas, au lit avec sa coéquipière mineure également. Et tout a été étouffé avec la complicité des cadres et la témoin a été gentiment écartée du groupe. On parle même de mineur, avec un E, conduite de Clairefontaine à une maison à Chartres. Voilà, conduite pour un week-end, donc c'est formidable. Elle a été pendant 9 ans, quand même, cette dame Roujas à l'INF, pour terminer même responsable du pôle féminin. Au moment où il a été question qu'elle intègre le staff du sélectionneur national féminin, les joueuses ont carrément menacé de faire grève, donc des joueuses devenues adultes qui sont passées et qui la connaissaient parce qu'elles avaient été mineures avant, ont menacé de faire grève et l'exception confirmant la règle, la fédération a prévenu le ministère des Sports, ce qui est un fait rarissime. A priori, ça n'était jamais arrivé, donc il a fallu effectivement que vraiment les filles menacent de faire grève pour que quelque chose bouge en fait. Suite à cela, elle a été licenciée en 2013 de manière fort discrète, mais pas condamnée pour une ou deux semaines de prescription. C'est ballot, donc c'est-à-dire que La justice a entre guillemets, hein, faut pas dire ça, a fait en sorte, enfin, on va dire, il s'est trouvé que, à 15 jours près, sur une prescription qui à l'époque devait être de moins de 10 ans, je pense, à quelques jours près, c'est ballot, toute la procédure judiciaire tombe à l'eau parce que, bah, on n'a pas eu le temps de la traiter avant, donc il y a prescription. Alors que le juge, les avocats, tout le monde le savait, évidemment, et qu'il y a certainement eu des avocats qui ont relancé, etc. Après, il y aurait eu donc des récidives à Metz par la suite, où elle était surnommée carrément la pédo par certaines joueuses. Donc après, elle a été embauchée là-bas. Et à l'époque, elle avait d'ailleurs effectué une visite à Haïti, on y reviendra plus tard, en faisant les éloges d'un certain Yves Jean Barre. On verra plus loin que ce monsieur a été penché aussi sur la chose. Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédé, en charge du football féminin, et aujourd'hui présidente du Comité olympique français, le CNOSF, était d'ailleurs la binôme de chambre de Roujas à l'époque, parce qu'elle était joueuse aussi, où elles étaient jeunes joueuses à Clairefontaine. Cette dernière portera plainte contre le média norvégien Josimar, où l'enquête a été publiée, pour harcèlement moral, et puis elle s'est mise en arrêt maladie. Elle a également porté plainte contre Romain Molina, le journaliste, directement pour diffamation. On parle aussi donc de la lettre de soutien de Madame Henriques, qu'elle a rédigée au président de la Ligue du Centre, Jacky Fortepaule, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour harcèlement moral et sexuel, alors qu'il avait fait ça sur 6 salariées différentes. Facialement, donc en fait, voilà, Madame Henriques, en fait, elle soutient les femmes, les enfants, elle porte-drapeau du foot féminin, et puis même maintenant au comité olympique, et en coulisses, en fait, on soutient des prédateurs, quoi. Des témoignages impliquent également une autre dame, donc Elisabeth Loisel, qui avait des critères de sélection basés sur l'orientation sexuelle apparemment, donc elle ne choisissait que des lesbiennes ou bi, dont Raphaël Raymond, le journaliste à l'équipe à l'époque, était au courant mais n'a jamais publié. Même Noël Le Graët, au retour de Loisel de Chine, et elle avait eu un contrat là-bas pour entraîner et être payée là-bas en Chine, et elle, quand elle a voulu revenir et qu'elle demandait à être auprès des mineurs, même Noël Le Graët, le président de la Fédé, aurait dit, je cite, quand même, on peut pas laisser Loisel entraîner des gamines. C'est dire. On parle aussi de Gaëlle Dumas, coach des jeunes, donc les moins de 16, moins de 18, les filles toujours. Aujourd'hui, elle est au pôle espoir de Blagnac à Toulouse. Elle fait face aujourd'hui à un procès fin 2022 pour mauvais traitement, abus d'autorité et violence sur mineurs, avec 7 plaignantes, dont 6 mineurs. Finalement, elle va avoir 6 mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis. Le verdict n'est pas encore tombé et il n'y a aucun regret de la part de l'accusé au procès. Depuis les années 80, une dizaine d'affaires sur mineurs sont sorties et ont toujours été enterrées en interne par notamment des mutations forcées. Avec, donc, comme je disais, comme dans l'éducation nationale ou l'église, équipes donc peuvent continuer librement dans le football amateur. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, le fait de vouloir cacher les choses ne neutralise pas les prédateurs. On parle par exemple du décédé Francis-Pierre Cochet avec les féminines, avec du chantage pour jouer en équipe de France. On parle aussi de Daniel Galetti, référent de l'arbitrage en Île-de-France, qui faisait du chantage sexuel, alors là c'était homosexuel masculin, pour être bien noté et proposer de l'argent à des mineurs pour pouvoir leur faire une fellation. Il est écarté sans objet ni aucune justification de la Fédé. Une joueuse internationale a déclaré qu'à 16 ans, en rééducation à Clairefontaine, suite à une blessure, un kiné a, je cite, pris sa virginité. On parle des années 2000, dans l'équipe de France féminine à Clairefontaine, qui semble être une période noire. Le jour où les langues se déliront sur cette période, il y aura beaucoup d'affaires. On parle aussi de dizaines de familles qui ont demandé de l'aide à la Fédé suite à des cas de pédocriminalité dans des clubs amateurs, entre guillemets, enfin donc des cas, entre guillemets, banals, et n'ont jamais reçu de retour, bien évidemment. Pour l'instant, la Fédération française de football va, je cite, mener un audit, en espérant surtout que ça ne, et alors ça c'était une déclaration officielle, perturbe pas les joueurs à la Coupe du Monde du Qatar 2022 qui est en train de se dérouler au moment où on enregistre. Donc c'est ça la priorité de la Fédé, hein. Il faut surtout pas perturber les joueurs pour la Coupe du Monde. Voilà. Mais les enfants qui se font violer, ça par contre, on s'en, hein, voilà, on s'en fout. En France, on va même jusqu'à construire un discours quand même extrêmement pervers, disant qu'il faut étouffer, enfin convaincre les filles du foot féminin qu'il faut quand même étouffer les affaires de scandales sexuels dans le foot féminin, car si ça se sait, alors le foot féminin va s'effondrer en termes de recrutement, de niveau, de financement, alors que entre guillemets, on a mis tant de temps à le construire. Alors il parle du foot féminin ou de la machine à violer des gamines qui est en place, c'est la question qu'on peut poser, et c'est qui on. Donc vous voyez un petit peu la perversité des choses. Bon, passons. Et on va aller à Haïti, donc dans les Caraïbes. Abus sexuels sur mineurs, avortement forcé et conditions de vie abominables dans le centre FIFA Gaule de la Croix des Bouquets, Haïti. Le président de la fédération haïtienne, Yves Jean Barre, Dadou, donc on a vu plus haut qu'il avait aussi il avait rencontré Madame Roujas, ami personnel de l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, qui a eu aussi des casseroles, est accusé de viol sur des femmes de l'équipe de football, parfois mineures. La plupart du temps, les viols étaient commis dans les locaux du centre FIFA Gaule de la Croix-Bouquet, financé par la FIFA pour les jeunes. Alors les conditions, c'est qu'il n'y avait pas de drap, 10 par chambre, nourriture immonde, parfois un repas par jour, l'eau non potable, pas de suivi médical et des détournements d'argent. Merci la FIFA, ça fait plaisir hein, de faire des trucs comme ça. On a du chantage sexuel, sachant que la menace est de retourner à la rue pour des enfants souvent orphelins. À 14 ans, on te convoque dans le bureau et on te demande de te déshabiller pour te faire dévierger, dépuceler par un vieux de 70 ans. Voilà ce qui se passe là-bas. Certaines mineures enceintes sont forcées d'avorter. D'autres sont juste virées pour aller à la rue et terminent de la prostitution et la drogue pour mourir vers 25 ans dans plusieurs cas. Les garçons, eux, vont aller plutôt donc vers le banditisme, la drogue et les armes. On parle d'un pays où les gangs et le gouvernement sont très liés. On parle de centaines de victimes. La FIFA et la FIFPro, le syndicat des joueurs, collaborent donc à un moment donné, soi-disant, avec le journaliste romain. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que le lendemain de leur entretien, quelqu'un de la FIFA fait fuiter et appelle la fédération haïtienne pour leur conseiller un avocat suisse très réputé pour les aider à s'en sortir. Extraordinaire. Et vous verrez, il y a plusieurs cas comme ça. On doit signaler ici donc le travail extraordinaire de Kat Craig, avocate anglaise qui travaille avec la FIFPro et qui a littéralement sauvé des victimes et leurs familles d'assassinats, notamment en Afghanistan, Haïti, au Mali, au Gabon, etc., en les protégeant et en les exfiltrant de leur pays pour qu'ils puissent témoigner sans danger. Donc il y a son site internet, son cabinet qui s'appelle Athled, Athled, un cabinet spécialisé donc qu'elle a fondé sur LinkedIn. Voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut avoir besoin de ses services. Elle a notamment écrit une tribune qui a fait du bruit dans le journal Guardian où elle propose des recommandations et constate que les institutions font semblant de s'intéresser au problème, mais en réalité ne bougent pas. Revenons à Haïti. Une certaine Nella Joseph, principale complice du président de la fédération, qu'on appelait l'ange gardien de Dadou, donc Dadou c'était le président de la fédération, et employée du centre FIFA Gaulle de la Croix des Bouquets, corrompait et en fait obligeait les jeunes filles à coucher avec M. Jean Barre, le président de la fédération, depuis 2 décennies désormais, et ça se faisait par exemple à l'hôtel Kingdom à Port-au-Prince ou au Servotel par exemple. Ce même centre, entièrement financé par la FIFA, investissement et fonctionnement à hauteur de 1 million de dollars par an, a aussi été utilisé pour organiser de la formation payante, le Camp Nou Project, de manière tout à fait illégale, mais la FIFA ferme les yeux. Fin 2020, Yves Jean Barre est reconnu coupable d'abus sexuels, notamment sur mineurs. Sa fin n'est que le début de la procédure engagée par la FIFA autour des pratiques des dirigeants de la Fédé. Alors attention, la commission d'éthique ou le comité d'éthique de la FIFA a suspendu à vie Yves Jean Barre, président de la Fédé haïtienne de football, après 2 suspensions de 90 jours assorties d'une amende d'1 million de francs suisses. À ce moment-là, il y a quand même une personne très haut placée au moment de la suspension à vie, au ministère de la Justice haïtienne, qui a prévenu un des avocats de Yves Jean Barre en lui disant qu'il fallait le faire sortir du pays parce que bientôt on allait peut-être leur demander de l'arrêter. C'est bien, hein, bien protégé. Une enquête plus large est en cours impliquant d'autres officiels. On parle notamment de la Coupe du Monde féminine des U20 en France en 2018, ou bien d'autres compétitions internationales en Suisse en 2010, ou encore aux États-Unis. La justice a par contre finalement complètement blanchi Dadou de toute charge, sachant que le gars s'est quand même enfui en dehors du pays, en dehors d'Haïti, juste au cas où. Mais a priori il est blanchi, on peut se demander pourquoi il revient pas d'ailleurs, peut-être qu'il a un petit peu peur de vengeance. Mais finalement, même de sa position à l'extérieur, il continue à tirer les ficelles avec son fils par le biais d'un nouveau président fantoche et il continue même à fréquenter le centre, le ranch, donc ça c'était avant qu'il s'enfuit, avec la complicité d'un certain Panel Guerrier, donc c'était le coach des U17, et de Yvette Félix, qu'on appelait Mamis, et qui a bien tourné sa veste, puisqu'à une époque, elle essayait de défendre les filles. Et puis finalement, elle a lâché l'affaire. Il y a eu depuis ces révélations de nombreuses menaces, de l'argent a été donné au club et aussi aux familles pour faire taire les gens. Un juge d'Haïti, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas délivré de commission rogatoire et du coup il a empêché la police judiciaire de faire son travail. Formidable. La Fédé a demandé à la FIFA la liste des victimes. Rappelons que Haïti, alors, donc la Fédé nationale qui est accusée de tout ça, demande à la FIFA internationale, qui elle a la liste des victimes, parce qu'on s'en plaint, parce que Romain Molina recueille les témoignages, etc. Il leur demande la liste des victimes. Ça, c'est bien, pour pouvoir les menacer, aller les chercher chez eux. On rappelle que c'est un pays où il suffit de payer pas grand-chose pour commanditer un meurtre, un assassinat. Rappelons qu'Haïti, effectivement, donc, est un pays failli, où le gouvernement et les gangs mafieux ne sont que les deux faces d'une même pièce, avec déjà des scandales humanitaires liés notamment au clan Clinton, si ça vous intéresse. Monsieur Jean Barre, sur un fil WhatsApp, parle du centre comme son poulailler, où tout le monde voudra aller manger. Des garçons ont aussi été abusés par d'autres personnes dans son entourage. On évoquera aussi l'anecdote connue de Tout Port-au-Prince, où le cousin de Jean Barre a violé une joueuse mineure à l'époque, très connue, et s'est plaint car il y avait tellement de sang sur son canapé qu'il a bien eu du mal à le rattraper à grands frais. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? On se marre bien. La fille pouvait à peine marcher après ce viol. Tout le monde est au courant depuis des années. Jean Barre avait admis avoir eu un enfant avec une joueuse et il semblerait qu'il n'en ait pas qu'un. Dans le volley-ball également, de nombreux témoignages vont dans le même sens. Aujourd'hui, c'est donc le fils de Jean Barre, alias Papito, oui, ils ont tous des surnoms, hein, en Afrique c'est pareil, vous verrez, qui dirige réellement la Fédé alors qu'il n'a aucun rôle officiel. Le secrétaire général Carlo Marcelin, qui s'était battu à une époque pour défendre les filles de son club, les Hogan, a bien aussi lui retourné sa veste. Aujourd'hui, il se tait et il ne fait rien et il ne bouge pas. Antoine Doré, l'ancien responsable du centre pendant 12 ans, jusqu'en 2014, témoigne devant la FUPA, lui par contre, et confirme que ça existait et que tout le monde était au courant et qu'il avait alerté la FIFA depuis fort longtemps. Donc que ça existait, qu'en fait ce centre c'était juste un endroit où on prostituait des mineurs, où on fournissait des mineurs en fait. On continue sur Haïti. À la suite d'une plainte du capitaine de polo d'Haïti, Claude Alix Bertrand, pour viol quand il avait 11 ans. Il est également aujourd'hui ambassadeur à l'UNESCO. Contre Evans Lescoufflaire, alias Daddy, professeur de sport au lycée privé Saint-Louis de Gonzague, catholique et extrêmement réputé, le lycée, pas le professeur, président fondateur du club Saint-Louis, également très connu, et puis agent de joueur à l'occasion pour se faire de l'argent, et finalement ministre des sports, donc cette plainte a été déposée. On s'est même rendu compte, grâce à des sondages sur des cohortes d'élèves, donc on a interrogé des élèves du lycée Saint-Louis de Gonzague, entre 79 et 90, que les prêtres qui tenaient l'établissement étaient aussi au courant des faits, et ils n'ont rien dit pendant des décennies. Et même, on s'est rendu compte que tous les élèves, c'est-à-dire que chaque cohorte année après année, étaient également au courant et personne ne parlait. Il y a eu un rapport ministériel qui a reconnu les actes odieux et massifs de Lescoufflaire dans le lycée. Lescoufflaire était clairement un maquereau qui prostituait des filles arbitres pour des officiels de la FIFA, en parallèle. En effet, les joueurs étaient aussi violés en masse dans le centre de la Croix-Bouquet, période 2007-2008 notamment, en compagnie de Jacques Succès Orismé, alias Coach Jackie, qui préparait un jeune pour se faire violer par Lescoufflaire en lui faisant miroiter une carrière, étant lui-même un pédophile prédateur notoire sur de nombreux enfants. Ce monsieur est décédé aujourd'hui. Certains garçons ont fugué du centre, et puis un autre s'est carrément suicidé. Mais sa famille a tellement peur qu'elle se tait. Une plainte pour viol sur mineur l'avait visée en 2010, Evan Lescoufflaire. Elle a été classée sans suite avec des pressions sur l'enfant qui n'avait pas d'avocat et sa famille n'avait pas d'argent. En 2015, un rapport avait été fait sur ses activités. Une émission de radio en avait parlé. Une lettre ouverte avait été faite dans le journal et rien n'avait bougé. Des témoignages parlent également d'amis étrangers de Lescoufflaire qui abusaient aussi des enfants, qu'il leur fournissait depuis le milieu scolaire aux sportifs. C'est effectivement un fournisseur. De nombreux témoignages sortent en off, aujourd'hui un peu plus sur Lescoufflaire. En off, car les victimes n'ont pour la plupart pas de protection et savent, je cite, qu'il y a eu de nombreux morts dans ces affaires. Il fuira la justice de son pays enfermé dans le coffre d'une voiture pour passer en République dominicaine. Donc la République dominicaine et Haïti, c'est une même île. Il y a la moitié d'un côté c'est Haïti, l'autre côté c'est République dominicaine. Puis il sera finalement arrêté par Interpol au Panama à l'été 2022, soit 6 semaines plus tard, grâce aux indications, aux renseignements des familles qui sont un peu militantes et qu'on réussit à avoir des infos là-dessus. D'autres encore, comme M. Rosnick Grant, responsable des arbitres, sont accusés de viol sur mineur. Nella Joseph, quant à elle, a été bannie de la Fédé pour 10 ans et Yvette Félix pour 5 ans. Malgré tout ça, il semblerait que d'après les locaux, donc des gens de là-bas, Rien n'a vraiment changé au centre FIFA Gaulle de la Croix des Bouquets. Je cite Claude Alix Bertrand, le capitaine de l'équipe de polo. Je cite Pour eux, les enfants, ce sont des cadeaux sexuels. Ils pensent que le cul des enfants leur appartient. Est-ce qu'on peut compter sur vous, les gens, pour nous aider à arrêter ce réseau international mondial qui utilise les enfants comme des matelas? Côte d'Ivoire. Championne de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire, l'équipe féminine de l'Africa Sport a récemment été secouée par une affaire de harcèlement et propositions sexuelles émanant d'un membre du staff et visant des joueuses parfois mineures. Je cite. Donc ça, c'est un message qui a été envoyé à une mineure. Si demain on n'a pas baisé, je jure le soir quand je vais rentrer, je vais me faire un bon aoko. Donc c'est une branlette. Si tu veux au moment de le faire, je te montrerai sur WhatsApp ma branlette en direct. Donc ça, c'est un des coachs, des accompagnateurs, qui envoie ça. Superbe. Harcelée, apeurée, la jeune joueuse de l'Africa Sport menace le coach en question de l'enregistrer, je cite. Pour éviter masturbation et autres sur WhatsApp, si j'arrive le soir, donne-moi ce que tu as de plus cher. Donne-moi ton joli corps, noir cacao brillant, écrit-il au milieu d'autres propositions sexuelles. C'est un obsédé, assène une joueuse. Il s'en est pris à moi, il voulait absolument coucher avec moi, je l'ai repoussé, je lui ai dit non, et il continuait. Il me disait que cela m'aiderait aussi pour ma carrière, je risque de me suicider, et puis ça va rester sur ta conscience toute ta vie. Connu comme le coach Touré de l'Africa Sport, Touré Makadi a intégré le staff de l'équipe féminine grâce à quelques amitiés. Non diplômé, il prend pourtant part aux entraînements, se fait appeler coach et gagne en influence au fil des mois. Je cite, c'est simplement un coach stagiaire, tempère Issiaka Bamba, le président de la section féminine. Il n'est pas l'entraîneur principal, c'est un stagiaire, pas plus. Oui, enfin stagiaire ou non, Touré a accompagné ces derniers mois les Aiglons, récentes championnes, pour la première fois de leur histoire. Je cite, On n'a pas vraiment compris ce qu'il faisait au début, explique une joueuse désireuse de garder l'anonymat. Il accompagnait l'équipe, nous parlait individuellement, nous donnait des conseils. Il est devenu quelqu'un qui comptait, donc on ne voulait pas avoir de problème avec lui, mais son attitude, il s'en est pris à moi, il voulait absolument coucher avec moi, je l'ai repoussé, je lui ai dit non, il continuait. Il me disait que cela m'aiderait pour ma carrière. En cause des dizaines de messages envoyés à plusieurs joueuses, notamment mineures, en réclamant des actes sexuels en échange de certaines faveurs sportives. Tu vas jouer plus, tu auras des maillots, tu vas être sélectionné, etc. C'est insupportable car il est pressant et nous fait du chantage, peste une autre joueuse. Dans l'un des textos, Touré explique même à une fille qu'il risque de se suicider et puis ça va rester sur ta conscience toute la vie. Donc ça, donc en fait, c'était du. Le coach faisait du chantage affectif, chantage au suicide, sur les filles. Soutenu par son président, qui n'a aucune preuve contre lui, refusant le chantage sexuel, de nombreuses filles ont supplié Touré d'arrêter, quitte à le menacer de le dénoncer. Je cite, vous êtes un pervers et un pédophile, peut-on lire dans un des échanges de messages. Qu'importe les avertissements ou insultes, le coach a continué. C'est pourquoi certaines ne viennent plus aux entraînements. Ce n'est juste pas possible. Il a même essayé avec des mineurs, souffle la joueuse. Excédées, certaines filles ont alerté des connaissances qui ont commencé à ébruiter l'affaire sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. J'ai vu ce qui se disait, mais ce sont des mensonges, coupe le président Bamba. Il n'y a aucune preuve, je n'ai vu aucune preuve, et j'attaquerai les gens qui mentent. Une fille a seulement dit que Touré l'a draguée. La drague, ce n'est pas condamnable que je sache. Organisant une réunion avec les joueuses, au cours de laquelle l'entraîneur s'est excusé, le président dit n'avoir rien entendu, aucune plainte. Oui, ce sont des mensonges, les filles ne m'ont rien dit, et cette histoire de mineur, c'est faux. Ah oui, alors tu organises une réunion avec les joueuses, tu les prends en tête à tête, et comme ça, au moins, tu sais qui balance, et puis t'es étonné qu'elles disent rien. Une réaction qui enrage plusieurs joueuses. Nous avons peur de parler, de révéler nos identités. On sait que Touré est soutenu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà délicat à aborder comme sujet. Silence de la présidente du comité de normalisation. Assistant toujours aux entraînements comme si de rien n'était, le coach Touré n'a pas répondu aux accusations le concernant. Donnez-moi des preuves et je prendrai la décision demain matin, dit Bamba, le président de la section féminine d'Africa Sport, qui n'a toutefois ouvert aucune enquête. Une inaction constatée également au comité de normalisation, dirigeant actuellement la fédération ivoirienne. Contactée à deux reprises par mail pour savoir si la Fédé comptait ouvrir une investigation, la présidente Mariam Gabala Dao n'a répondu à aucune demande. Je cite, C'est comme si tout le monde s'en foutait de nous, souffle avec quelques larmes une aiglonne. Notre club ne prend aucune décision, la fédération ne regarde pas ce qui se passe. Ne croyez pas que le cas de Touré soit isolé, c'est répandu dans le football féminin ivoirien. Notre club ne prend aucune décision. Ne croyez pas, donc ça c'était la même chose. Dans l'attente des élections de la Fédé, prévues le 23 mars, l'affaire du coach montre les priorités de certains dirigeants et le sort réservé aux jeunes filles qui disputeront pourtant dans quelques mois les tours préliminaires de la Ligue des Champions de la Confédération africaine. une récompense d'une saison équipe épique, mais dans quelles conditions? Et donc finalement, un entraîneur du club, dont la presse ne cite pas le nom, à Africa Sport, a quand même été renvoyé. À suivre. La Sierra Leone maintenant. Abdoulaye Ba retrouve la liberté. L'ancien coach de la sélection féminine de la Sierra Leone est en effet libéré sous caution après avoir passé 11 jours derrière les barreaux. Ba a été incarcéré suite à des accusations d'agression sexuelle sur ses joueuses. Il a d'ailleurs été suspendu de toute activité liée au football par la fédération sierra-léonaise. Il fait également l'objet d'une enquête de la part de la SL, donc de la Fédé. Le département des enquêtes criminelles attend l'avis du ministère public pour savoir s'il existe des preuves suffisantes pour porter l'affaire devant les tribunaux. Afghanistan. Le président de la Fédération afghane de football, Karamuddin Karim, est accusé par de nombreuses joueuses de l'équipe nationale de viol et d'agression physique, coups de poing au visage, menaces avec un pistolet chargé sur la tempe, menaces de mort et de couper la langue des filles suite au viol. Une autre qui s'est enfuie alors qu'il essayait de l'embrasser a été virée de l'équipe et il a fait courir la rumeur qu'elle était lesbienne. Une autre, alors être lesbienne en Afghanistan, c'est pas tout à fait pareil qu'à Paris, hein. Une autre a été battue et violée dans une chambre secrète cachée dans un mur de son bureau qui ne pouvait être ouverte qu'avec ses empreintes digitales. Les agissements de Karim étaient bien connus de tous à la fédération. Lui et quatre autres membres de la Fédé ont été suspendus pour 90 jours. Une joueuse a déclaré après avoir été prise pour cible après l'entraînement alors qu'elle se rendait au bureau de Karim pour demander de l'argent pour les frais de transport. Donc je cite un peu son témoignage. J'ai demandé de l'aide, il a commencé à essayer de se rapprocher de moi. Il a dit: je veux me rapprocher de toi, je veux voir ton corps. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai été très poli avec lui. J'ai dit: écoutez, j'ai besoin d'argent pour mon transport, je n'ai pas d'argent. Pouvez-vous m'aider? Si vous ne pouvez pas, laissez-moi partir. Il a dit qu'il m'aiderait et il m'a dit d'attendre. J'ai dit que je voulais rentrer chez moi. Il a dit: ne vous inquiétez pas, je vais vous donner de l'argent. Le président m'a dit de le suivre dans la pièce voisine. Alors je suis parti avec lui, je pensais qu'il allait m'aider. Je l'ai suivi dans la pièce voisine, il est allé dans une autre pièce. Et il y avait une autre pièce à côté de celle qui était très sombre. À l'intérieur de cette pièce, il y avait une porte. Mais vous ne pouviez pas vraiment la voir, la porte, on aurait dit un mur, donc une porte cachée dans le mur. On avait du mal à voir que c'était une porte. C'était ouvert et à l'intérieur, c'était comme une chambre d'hôtel, une chambre avec tout à l'intérieur, des affaires de femmes, une salle de bain, etc. Il m'a dit d'entrer, je suis entré, il était derrière moi, il a verrouillé la porte. Il m'a dit de m'asseoir sur le lit, j'étais inquiète, je tremblais. Il a dit: aujourd'hui, je veux découvrir ce qu'il y a derrière tes vêtements. Je lui disais: laissez-moi tranquille, je vais rentrer chez moi. Je me suis levé et j'ai dit que je voulais rentrer chez moi. Et il m'a dit: crie autant que tu veux, personne ne t'entendra, ils ne t'entendront pas. Puis il a commencé à me pousser vers le lit, je me suis relevé, j'ai dit: laissez-moi tranquille, je suis venu seulement pour du soutien, je n'en veux plus, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, laisse-moi partir. Il me disait qu'aujourd'hui il découvrirait si j'étais lesbienne ou non, parce que j'étais souvent avec les filles et que je ressemblais un peu à un garçon. Je me suis levé, j'ai essayé de me battre, mais il m'a frappé au visage. Je suis tombé sur le lit. J'ai essayé de me lever et d'aller à la porte, mais parce que la porte utilisait son empreinte digitale, il n'était pas possible de l'ouvrir. Je n'ai donc pas pu sortir. Il m'a donné des coups de poing au visage et sur la bouche. Du sang sortait de mon nez et de mes lèvres. Il a commencé à me battre. Je suis tombé sur le lit et tout est devenu noir, donc elle a perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, tous mes vêtements avaient disparu. Il y avait du sang partout. Je tremblais. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Le lit était couvert de sang. Du sang coulait de ma bouche, de mon nez et de mon vagin. Je suis allé à la salle de bain. Je me suis lavé le visage. J'ai mis mes vêtements. Je suis retourné. J'ai dit: je vais y aller. Comme ça, je dirai aux médias ce qui m'est arrivé. Là, il a pris une arme, son arme, donc un revolver, il l'a mise sur ma tête et a dit: tu vois ce que je t'ai fait? Je peux te tirer une balle dans la tête et partout sera ton cerveau. Et je peux faire la même chose avec votre famille. Si vous voulez que votre famille soit en vie, vous devez vous taire. Puis il m'a jeté de l'argent au visage et m'a dit de le prendre et de sortir. Il a dit qu'il ne voulait pas voir mon visage et il a ouvert la porte et je suis parti. Incapable de raconter tout ça à sa famille, ce qui s'était passé, elle a inventé une blessure sportive. Je ne me sentais pas bien, j'ai appris par des amis de l'équipe que le président avait répandu une rumeur selon laquelle j'étais lesbienne et qu'il m'avait surprise avec une autre fille et c'est pourquoi j'ai été expulsée de l'équipe. C'était déprimant pour moi et très dangereux, et très dangereux. Sa décision de s'exprimer n'est pas sans risque. Donc je sais que ma famille est en danger et je sais qu'elle le sera quand d'autres sortiront, mais je veux prendre la parole et en parler à cause de l'avenir des filles. Je veux que les filles aient un environnement sûr. Zimbabwe. Un ancien responsable de la Zimbabwe Football Association est banni de ce sport pendant 5 ans et condamné à une amende de 20 000 francs suisses pour avoir harcelé sexuellement trois arbitres féminines. Le comité d'éthique de la FIFA a reconnu Aubert Zoya, alias le boucher, qui était donc qui se faisait lui-même appeler comme ça. Hein. C'était pas un surnom que les autres lui donnaient, c'est lui était fier de se faire appeler comme ça. Qui était secrétaire général de la commission des arbitres de la Fédé donc du Zimbabwe, coupable d'avoir abusé de sa position. La suspension de Zoya prend effet immédiatement. Il sera notifié des motifs de la décision dans les 60 jours à venir, assorti d'une amende de 20 000 dollars. Je cite, après une analyse minutieuse des déclarations écrites des victimes ainsi que des diverses preuves recueillies au cours des enquêtes menées, la chambre juridictionnelle a été confortablement convaincue que M. Zoya avait enfreint le code d'éthique, indique une déclaration sur le site web de la FIFA. Le Zimbabwe a été banni du football mondial par la FIFA en février en raison de l'ingérence du gouvernement dans la gestion du jeu. République démocratique du Congo. Je cite, mon petit. Si tu veux signer le contrat, il faut faire des sacrifices. Tu dois nous donner tes fesses. C'est très simple, tu sais ce qu'il faut faire. Ça, c'est carrément des audios WhatsApp que les coachs envoyaient, donc des officiels congolais, des coachs, des dirigeants, envoyaient aux mineurs, aux petits garçons. Sport News Africa en a réuni une dizaine sur une année d'enquête. Dans la lignée du système pédocriminel ayant gangréné le football gabonais, on y viendra après, depuis les années 90, le Beautiful Game de la RDC est lui aussi concerné par des abus en masse sur des jeunes garçons et des adultes. Je cite, c'est un système, ce n'est pas un cas isolé de pédophilie, confirme Youssouf Mouloumbou, l'ancien capitaine de la sélection nationale. Des coéquipiers des jeunes sont venus me parler de ce qu'ils ont connu, des propositions qu'ils recevaient, je l'ai vu et entendu à de nombreuses reprises, c'est une réalité. Voilà, donc ça fait plaisir de voir un joueur assez connu, qui joue en Angleterre, je crois, et qui confirme et qui utilise son pouvoir médiatique pour appuyer ça, quoi. C'est trop rare. Donc la FECOFA, la Fédé congolaise, a été alertée en décembre 2020 lors du tournoi qualificatif de la CAN des U20 de la zone UNIFAC, donc d'Afrique centrale, disputée en Guinée équatoriale. Le scandale éclate au sein de la sélection. Je cite, j'ai interpellé Monsieur Théo Binamungu devant presque tous les membres du staff de la Fédé en lui demandant de faire quelque chose car c'était trop, s'emporte l'ancien international Papi Kimoto. Les enfants et certains joueurs souffraient de ces abus et je lui en ai parlé, mais qu'est-ce qui a été fait? Rien et ça continue. Donc Théo Binamungu, c'est donc le président de la Fédé. Confirmé par plusieurs témoins, la joute verbale entre Papi Kimoto et le vice-président a été. Et le vice, pardon, vice-président Binamungu. A été l'une des premières alertes publiques d'un ancien joueur reconverti dans le staff des équipes de jeunes des Léopards. Les Léopards, c'est l'équipe nationale de RDC. Je cite, j'ai prévenu aussi le président actuel, M. Chimanga, et d'autres dirigeants, poursuit Kimoto. Je fais partie de l'amicale des entraîneurs de la RDC. Lors d'une réunion, on a soulevé ce problème. Avec d'autres, nous voulions une politique claire. Chaque entraîneur qui se faisait attraper devait être sanctionné. Or, à ce moment-là, le directeur technique national actuel et Florent Ibenge ont défendu ça. Ils ont parlé de vie privée et qu'ils ne voulaient pas rentrer en conflit là-dessus. Nous étions dégoûtés. Personne ne veut faire quelque chose pour les enfants. Le cas Bertin Makou. Contacté et relancé par Sport News Africa, le président Chimanga n'a pas répondu, pas plus que le vice-président Binamungu. Quant au directeur technique national, Guy Louzadizou, il nie avoir été présent à cette réunion, comme Florent Ibenge, l'ancien sélectionneur national, qui a ajouté, je cite, avoir entendu des histoires de coach ayant des relations avec les jeunes, mais sans avoir de preuves. Cependant, trois témoins confirment la présence de chacun des individus mentionnés à cette fameuse réunion, qui ont été prévenus en amont, parfois par différentes personnes, notamment vis-à-vis de Bertin Makou, l'ex-sélectionneur de l'équipe locale, qui a pris part au CHAN, donc c'est le comité, on va dire, comme adjoint. Je cite, c'est aberrant, souffle-t-on à l'intérieur du groupe Chan. Tout le monde connaît ces méthodes. Ils ont été avertis de ça. Et ils le ramènent encore. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont juste outrés que tout le monde sait que c'est un pédo. Et le mec, ils veulent encore le mettre au contact des mineurs. Ancien entraîneur du RCK, Racing Club de Kinshasa, et de Loupopo, pour lequel il a aussi été adjoint, Bertin Makou, est accusé par plusieurs joueurs de chantage sexuel, ce que l'intéressé nie. Je cite, il fallait coucher pour jouer, souffle l'un d'entre eux, adulte au moment des faits. Prévenu de ses actes et aussi de ses affaires de corruption, il réclamait par des messages Facebook une partie des primes des joueurs pour les faire jouer. La direction de Loupopo n'a pas bronché. Donc en fait là c'est un système de racket où en fait t'as des primes de déplacement, des primes de match qu'on donne aux joueurs et en fait les entraîneurs ils disent bah écoute tu vas me donner ta prime et tu joues. Voilà, c'est intéressant, ça se voit assez souvent. Contacté personnellement, le président du club Jacques Kiaboula, également gouverneur du Haut-Katanga, n'a pas répondu. Je cite, comment Macou a pu revenir au sein de la Fédé avec son passif, interroge un international. Est-ce que cela a à voir avec la donation du président de l'Oupopo à la Fédération? On se pose beaucoup de questions. Donc donation, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à la Fédé. Je veux voir si ton sexe est du diamant ou pas. Si les instances footballistiques restent silencieuses, des voix s'élèvent pour dénoncer les actes répandus à travers tout le pays. Je cite, il faut arrêter de se voiler la face et affronter le souci, confirme Erita Ilunga, le président de l'Union des footballeurs du Congo. J'ai reçu plusieurs témoignages et preuves de ces abus, des coachs qui demandent à des gamins de coucher avec eux et de faire des sacrifices. Je travaille de mon côté depuis un moment pour répertorier cela et voir les actions possibles pour nettoyer notre sport et permettre aux enfants d'évoluer dans un environnement sécurisé. Donc vous avez bien compris que sacrifice égale sodomie. L'ancien latéral et international œuvre notamment en coulisses avec la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, qui a confirmé à Sport News Africa la gravité des allégations. Je cite, la FIFPro a connaissance de plaintes extrêmement graves émanant de nombreux footballeurs en RDC. Ces plaintes sont accompagnées de preuves incluant des messages audio et écrits explicites où on leur demande des prestations sexuelles en échange de temps de jeu. De telles demandes effrontées suggèrent que ceux qui cherchent à abuser des joueurs pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité et sans crainte d'être tenus responsables. Fin de citation. Une référence à des audios WhatsApp est complètement surréaliste de plusieurs minutes en français ou encore en lingala dans lesquelles les coachs et dirigeants demandent donc des sacrifices à des mineurs, soit de sang, soit en donnant les fesses. Alors, est-ce que c'est un sacrifice de sang? Il faudra se poser des questions. Sur Facebook, un entraîneur répondant au nom de Donga et Papa Cédric, alias Moyindo, écrit par exemple à un joueur de 16 ans qu'il veut voir si son sexe est du diamant ou pas. Il est gros, c'est pour ça que tu penses que c'est du diamant? Point d'interrogation. Après quelques échanges, Moyindo rappelle au jeune qu'il doit recevoir sa dose, entre guillemets, et qu'il ne doit pas prendre la grosse tête car son sexe serait du diamant. Un discours sans vergogne qui n'étonne pas Luc Mangala, un agent de joueur ayant fait virer Moyindo pour ses pratiques. Je cite, j'ai réuni plusieurs enfants qui m'ont tout expliqué, raconte-t-il. J'ai pris les parents d'un petit pour qu'ils aillent au parquet porter plainte. Moyindo est un danger pour nos enfants, mais qu'est-ce que je vois? Qu'il continue à entraîner sans problème dans la commune de Lemba. La commune de Lemba, c'est donc en banlieue de Kinshasa, un des quartiers de Kinshasa. Des condamnés pour pédophilie ouvrent les académies pour jeunes. Eh oui. Donc, entraîneur à JM, un club de la commune de Lemba, Moyindo, donc maintenant il est là-bas, n'a pas répondu aux sollicitations sur ses agissements. Une de ses victimes expliquait comment ce dernier lui tripotait le sexe et le pénétrait depuis ses 13 ans. Des accusations entendues par Timothée Menayam, le président de l'entente urbaine de l'Oupopo, qui engrange 6 à 7 communes de Kinshasa, dont celle de Lemba. Je cite, il est cité dans la pratique, mais on cherche des preuves. Affirme ce dernier qui avait pourtant vu les captures d'écran, les messages Facebook à caractère sexuel entre Moyindo et un mineur. Vous savez, ce n'est pas simplement dans ma juridiction, mais de partout. C'est pourquoi, avec un avocat, Maître Fiston Mwenge, nous voyons comment pallier à la situation que les victimes n'arrivent pas à dénoncer. Nous cherchons à mettre la main sur les auteurs des crimes. Au cours de la discussion, il évoque le cas d'un individu qui s'adonnait à la pratique et qui a été retrouvé mort il y a une quinzaine de jours, tabassé par des proches d'une de ses victimes. Cet homme, surnommé Baggio, était le secrétaire général du club JM, l'équipe où entraîne son meilleur ami, le fameux Moyindo. Je cite, qui vous a donné mon numéro? Tonne le président de JM, Célestin Dianda, qui ne donnera pas suite aux sollicitations des journalistes. Deux autres coachs de la commune de Lemba, ayant purgé des peines de prison pour des agressions sexuelles sur mineurs, Stani, Alain Kandoudi et Jonathan Bouka, dit Messi, ont eux aussi immédiatement retrouvé les terrains à leur sortie du pénitencier. Mais oui, Bouka, qui est de nouveau en détention à Makala, la prison centrale de Kinshasa, arpentait diverses formations du quartier de Divoulou, reconnu pour abriter des pédophiles notoires. Donc on citera l'AS Balayi, jeune talent. Je cite, il crée des petites structures, des genres d'académies et il profite des jeunes, se lamente l'agent Luc Mangala. Un phénomène similaire se produit au sud de Kinshasa, dans la commune de Matete, avec le coach Soulé du FC Soukisa. Je cite, j'ai alerté beaucoup de gens et j'ai même demandé un rendez-vous au ministère des Sports, mais rien ne s'est passé, poursuit Mangala. Quand est-ce que nous allons protéger nos enfants? Pris en plein acte dans les toilettes du stade Tata Raphaël, donc t'as un grand stade de Kinshasa. Selon les témoignages d'autres victimes ou de joueurs ayant reçu des propositions sexuelles en échange de temps de jeu, un nom bien connu du championnat congolais ressort de chaque bouche. Guy Roger Limolo, technicien passé par le FC Renaissance, US Filas, Dauphin Noir ou l'AC Rangers. Je cite, il a tout fait pour coucher avec moi, c'était du jamais vu, explique l'un d'entre eux. Pris en plein acte, Il y a quelques années, dans les toilettes du stade Tata-Raphaël, Guy Roger Limolo a pu continuer sa carrière sans souci, comme Tifo Miezi, l'ancien coach de l'Étoile du Kivu, qui a signé en deuxième division au FC Kasombo. Je cite, c'est un réseau, il ne faut pas avoir peur des mots, remarque Youssouf Moulumbu. Revenu jouer au pays à Loupopo, l'ancien capitaine des Léopards souhaite prendre la parole pour inciter les joueurs à témoigner. Je comprends que c'est dur, beaucoup ont peur, d'autres ont honte, on fait rentrer dans la tête des jeunes qu'ils doivent donner leurs fesses. Que c'est comme ça que ça se passe en Europe. J'étais surpris car beaucoup de joueurs ici pensent qu'en Europe il faut coucher. Ça montre à quel point on leur a inculqué ça dans leur crâne. Dans des audios obtenus par Sport News Africa, un certain Paoli explique à un attaquant que ça se passe comme ça en Europe et qu'il peut être Messi ou Ronaldo, mais il doit faire des sacrifices comme eux. Un endoctrinement auquel s'ajoute une pauvreté exploitée par les bourreaux. Je cite, ils ciblent des joueurs les plus défavorisés. Abonde Erita Ilunga. Ce sont des proies encore plus faciles. Le football est parfois le seul moyen de faire vivre la famille. Donc, on cède. La FIFPro demande une enquête indépendante de la FIFA au plus vite. Depuis 2 ans et demi, le football mondial a vu se décupler les révélations d'abus sexuels, notamment sur mineurs, dans les fédérations internationales. Afghanistan, Haïti, Gabon, Sierra Leone, Zambie, Colombie, États-Unis, Canada, France, Islande, Barbade, Mongolie. Les exemples sont innombrables et inquiètent de plus en plus le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, qui est plutôt du bon côté et qui, a priori, défend plutôt sur les affaires. Sur la base de nos connaissances approfondies des précédents cas d'abus sexuels dans le football, et étant donné qu'il semble que des employés de la Fédération nationale peuvent être impliqués, une enquête sur ces plaintes ne peut être laissée à la Fédération, explique-t-elle dans un communiqué adressé à Sport News Africa. Et oui, la FIFPro demande que l'affaire soit dépaysée, grosso modo, ils ont jugé parti. Nous appelons donc la FIFA à ouvrir une enquête indépendante le plus vite possible, tandis que nous travaillons avec le syndicat national des joueurs congolais pour soutenir les joueurs concernés. On verra à quoi ça ressemble une enquête de la FIFA dans d'autres dossiers. Une demande nécessaire, même si l'enquête, donc menée par la FIFA par exemple au Gabon, interroge, comme le réseau ahurissant de fédérations membres de la FIFA mêlées à des scandales pédocriminels. Je cite, j'ai eu la chance de partir en Europe faire ma carrière, note Papi Kimoto, passé par l'Auckerend, le Standard, donc en Belgique, ou diverses équipes chypriotes et israéliennes. Je suis rentré au pays pour coacher. Je ne peux pas me taire. Je sais que je vais être menacé, mais il faut dire stop, on doit protéger nos enfants. Quand je sais que des pédophiles virés de certaines équipes pour cela continuent d'entraîner sans le moindre problème, ça me dégoûte. Cela fait des décennies que ça dure chez nous. Lorsque j'ai vu l'affaire sortir au Gabon, j'ai repris espoir, je me suis dit, et si c'était notre tour? On va y venir au Gabon, et donc je tiens à signaler quand même qu'en Afrique centrale, l'homosexualité masculine, c'est pas comme en France, hein. On a beau dire, là-bas, c'est comment dire, c'est vraiment un tabou immense. Même si ça existe, on peut se faire fracasser dans la rue très facilement si jamais on affiche des choses comme ça. Donc du coup, c'est encore plus compliqué pour les victimes masculines de viol par des hommes de pouvoir le dire, parce que c'est vraiment, voilà, je rajouterai pas sur le côté superstition, magie pour ceux qui connaissent un petit peu l'Afrique. Voilà, c'est très très compliqué.